Carnet de campagne, bonjour. Pour cette dernière semaine de la saison, nous résidons en Bretagne. Il y a un avant-goût de vacances dans ce parcours et en particulier dans le département du Morbihan. 750 000 habitants, donc toujours un peu plus de monde dans ces terres du sud Bretagne qui s'organisent administrativement à partir de Vannes, de Lorient, de Pontivy. Groix, Quiberon, Belle-Île, pas de doute, ça sent les congés et pas seulement la marée. Les exemples de nouvelles orientations de l'agriculture et de l'élevage ne manquent pas. On sait que l'agriculture et l'élevage sont toujours prépondérants en Bretagne dans l'économie régionale. Parfois, c'est le retour aussi de culture oubliée, à l'image de la betterave sucrière. La raison pour laquelle Bernard Cano, notre premier invité, tente d'imaginer l'ouverture de sucreries locales. Leur nom est déjà trouvé, Braise Sucre. Une particularité bretonne aussi est d'avoir été la première région à décliner le soutien à l'économie sociale et solidaire sous la forme de pôle de pays. Celui de Vannes vient de mettre en place un service qui devrait consolider les emplois du secteur et réunir les structures et entreprises concernées. Le détail de cette démarche nous sera rapporté par Anne-Hélène Rioux, chargée de mission au pôle ESS du Pays de Vannes.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Bernard Cano, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bernard, quand vous inventez quelque chose, ça réussit, ensuite vous passez à autre chose. C'était le cas avec Edou Bresse pour la relance de la culture du sarrasin en Bretagne. Et maintenant vous passez au sucre.
Oui, alors Edou Bresse, c'est une activité que j'ai menée avec Laurence Tréhin, mon associé, pendant de nombreuses années. Et on a porté ça à bout de bras, déjà pour dire que les choses, quand elles marchent, elles ne se font pas tout seules.
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a réussite pour Edou Bresse et vous passez donc à un autre projet, Braise Sucre.
Voilà. Je veux mettre l'accent sur l'idée qu'en Bretagne, on a hyper spécialisé les activités d'élevage et qu'il serait bon de comprendre comment le végétal va peser de façon plus significative dans nos assiettes et qu'on devrait se tourner aussi vers les productions végétales. Et par apparemment, je traite du sujet de la betterave, qui est un aspect des productions végétales.
Voilà. Donc la betterave sucrière, hein, pas la betterave fourragère.
Oui, mais quand j'étais enfant, je suis un enfant de la campagne, mon père était forgeron machine agricole, et mes petits copains, c'était des fils de paysans. La betterave était présente dans toutes les petites fermes traditionnelles et assurait des forages certains et de grande qualité. Et dites-vous qu'il n'y a pas un hectare de Bretagne qui n'ait pas porté des betteraves jusque dans les années 70, et on peut généraliser ça à toute l'Europe.
Alors c'est un comble parce que, Bernard, l'industrie agroalimentaire a abandonné au fur et à mesure la culture des betteraves sucrières comme de beaucoup de légumes racines. Et aujourd'hui, on importe le sucre.
Oui, le marché du sucre bio repose en totalité sur les importations. Le sucre est souvent importé même par des grands groupes, par le biais de leurs filières qui sont dans l'industrie du sucre non bio.
Oui.
Et est exclusivement issu de la canne, donc parcourt de grandes distances et fait intervenir de nombreux intermédiaires, bien souvent.
Bien sûr. 50 000 tonnes de sucre de canne bio importées en France chaque année pour 170 000 en Europe.
130 000 tonnes avec une croissance importante de l'ordre de 15% par an.
Oui. Comment relancer la culture de la betterave sucrière en Bretagne et de créer ce que vous avez envie de porter, les mini-sucreries?
La betterave, elle fait l'objet d'un a priori qui est celui d'une difficulté de désherbage parce qu'elle pousse lentement au départ. Et elle est réputée d'une culture difficile à tel point que beaucoup ne l'ont même pas envisagé, ne l'ont jamais pratiqué, mais on s'en est tenu à cet a priori. Alors moi, depuis plusieurs années, 4 ans, avec des agriculteurs de toute la Bretagne, du Maine-et-Loire, de Vendée où on se rend demain sur un grand domaine de 600 hectares, de Mayenne. On développe cette culture pour comprendre ses finesses, savoir comment faire les interventions de désherbage. Et l'année dernière, par exemple, on avait des niveaux de récolte très très honorables, de 60 à 80 tonnes, et des richesses à 18-19, avec toutes sortes de petites améliorations qui sont de portée. Eh bien, je pense qu'on pourra montrer qu'avec persévérance, on y arrive normalement. Il y a quelque chose qui compte beaucoup, beaucoup à mes yeux et qui me conforte aussi dans ce que je fais, c'est qu'il y a tout un ensemble de paysans qui, en dehors de conventions commerciales, participent à ces essais. Donc, une partie des volumes produits sert à des aspects techniques sur des façons d'extraire le jus, de le purifier. Et puis, les volumes qui sont excédentaires et qui sont quand même très importants sont distribués aux vaches et tiers. Ça montre comment on cherche des solutions pour avancer. Parce qu'au départ, toute la betterave n'est pas valorisée comme sucrière, évidemment.
Oui. Vous avez en projet l'ouverture d'une mini-sucrerie sur le pays de Pontivy oui. l'année prochaine. Pourquoi des mini-sucreries alors que la tentation, c'est de dire ben, si on relance cette culture-là, on peut faire un lieu de production et de transformation généralisé sur la Bretagne avec un grand espace.
Eh ben, quelque part, cette expérience que j'ai eue dans Hédoubraise, où on apportait quand même beaucoup, beaucoup les choses à bout de bras, montrait en 1990 comment, en phase avec le monde bio qui était très embryonnaire, on montrait qu'une petite usine dédiée à la nutrition, fabrication d'aliments, était capable d'exister. Donc je me suis beaucoup inspiré ça pour ensuite, pour savoir ce qui se passait dans une sucrerie, j'ai analysé et je l'ai dimensionné un outil qui est apte à produire 5000 tonnes parce que c'est une échelle à partir de laquelle on trouve déjà un équilibre économique qui, à mon avis, se profile très bien. Mmh. Cette sucrerie, donc si elle existe dans un bassin comme la Bretagne, eh bien, elle est pensée pour être duplicable et qu'elle serve à renforcer la production bio dans d'autres bassins de production et avec d'autres outils tels que des malteries, des brasseries, etc., etc.
Bravo, belle initiative, cette relance de la filière de la betterave sucrière avec cette économie locale qui valorise aussi des débouchés de l'agriculture bio au profit du travail des paysans. Braisesucre.wordpress.com pour l'adresse que vous allez retrouver à nos pages émissions. Merci Bernard.
Merci Philippe. Kenavo.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Si Bernard Cano a participé à une époque à la relance de la culture du sarrasin, d'autres ont pensé à de nouvelles utilisations de ce blé noir. C'est le cas de Laure, correspondante des carnets et créatrice de son entreprise Fleurs de Sarrasin à Saint-Philibert dans le Morbihan, au pays des galettes de blé noir. Laure a eu l'idée en effet d'utiliser les cosses de sarrasin pour concevoir des oreillers totalement écologiques dans un esprit de made in France. Les vertus de la cosse, a priori très en vogue depuis des lustres au Japon, sont multiples, matériaux naturels évidemment, écologiques, simples d'utilisation, confortables et parfaitement, nous dit Laure, adaptés à nos besoins de sommeil équilibrés. Le petit plus de l'entreprise de Laure est de faire appel aussi au service d'un ESAT pour la confection de ces articles, sans compter les autres qualités qui tiennent au caractère local des matières premières, au fait que les déchets d'Écosse sont récupérés pour les jardins de la commune et que les chutes de tissus sont données soit au club de patchwork, soit aux entreprises du pays. Et comme l'écrit encore Laure, sa création est une variante des oreillers en balle d'avoine de nos grands-mères et désormais finit les maux de tête. Enfin, paraît-il que ça fait du bien contre les maux de tête. Fleurdesarrasin.fr pour l'adresse. Anne-Hélène Rioux, bonjour.
Bonjour.
Anne-Hélène, vous êtes chargée de mission pour la place. La place, c'est les premières lettres de place, c'est la plateforme. Ensuite, le C de coopération, le E d'échange, qui vient d'être lancé par le pôle ESS du pays de Vannes. Alors, il faut expliquer, c'est qu'il y a dans chaque pays un pôle de développement de l'ESS. C'est une particularité Bretagne. Vous avez 21 pays, 21 pôles. Et le vôtre, alors, répondait à quelle question avec cette plateforme ?
Alors, elle répondait à la question, surtout aux besoins des structures de l'ESS sur le pays de Vannes. Comment permettre de consolider et de développer et de pérenniser des emplois dans l'ESS ? Comment mettre en avant ce dynamisme existant ? Oui. Et donc, on a trouvé cette solution avec les structures du pays de Vannes.
Ouais. Alors, on comprend à demi-mot, mais ça reste très, très abstrait. Concrètement, les petites structures, c'est quoi ? C'est des associations, c'est des petites entreprises sociales et solidaires qui cherchent quoi ? Qui vous demandent quoi précisément ?
Alors, en fait, cette plateforme, elle se met en place suite à une étude qui a été menée où on a des petites structures, donc en effet des associations qui ont souvent un, deux, peut-être trois salariés et qui vont, ces salariés vont porter beaucoup de compétences, de choses à faire, que ce soit la gestion des ressources humaines, le cœur de l'activité, communiquer sur l'activité qui est en cours.
Oui.
Et donc, en fait, on se retrouve avec des salariés qui peuvent être en tension. Et donc, le projet de mutualiser des compétences, c'est que ces petites structures qui sont peut-être plus fragiles puissent faire appel à des structures qui sont piliers, où là, en fait, on va peut-être avoir plus de disponibilité, de personnes qui vont être à temps partiel, parce qu'ils sont bien ciblés sur, par exemple, une compétence gestion RH, et qui, du coup, pourraient être mises à disposition pour compléter ce temps partiel sur une petite structure, sur un temps délimité, cadré, etc.
Et donc la plateforme serait un peu l'opérateur de tout cela, c'est-à-dire une PME ou une entreprise qui a associative, coopérative ou autre, qui a suffisamment de salariés de compétences, pourrait proposer ses services à une plus petite structure.
Voilà, c'est ça. Par la plateforme numérique, il y a cette mise en relation d'offres et de demandes sur des compétences transverses, communication, RH, stratégie et développement de la structure. Et avant ça, il y a toute l'analyse des besoins et des ressources des structures sur notre territoire. Chaque structure qui voudra participer à la plateforme bénéficiera d'un rendez-vous pour justement analyser quel est réellement le besoin. Est-ce que c'est via la plateforme que ça se passe ou via nos partenaires locaux aussi qui accompagnent aussi des structures, des associations type le DLA, etc.
Ouais. DLA qui est donc un dispositif local d'accompagnement qui permet d'assurer une formation parce que on peut avoir quelqu'un qui est employé dans une association, qui a des compétences mais qui a envie de d'affiner ses compétences. Est-ce que vous intervenez pour aider à une meilleure formation de cette personne?
Au niveau de la plateforme, une personne peut monter en compétences parce qu'elle va être mise à disposition dans une structure qui exerce ce métier où elle veut se former. Mmh. Après, les formations qui pourront être dispensées au travers de la plateforme, soit c'est des formations des types prestations qui sont mises en offre sur la plateforme numérique, soit ça va être des formations qu'on pourra être amené à réaliser si on observe qu'il y a un besoin des demandes récurrentes sur la plateforme et qu'il n'y a personne jusqu'ici qui y répond.
Alors, la plateforme sur le web est en développement depuis peu de temps. Vous avez déjà des organismes, des structures de l'économie sociale et solidaire qui sont inscrites à cette démarche?
Oui, alors en fait, la plateforme se développe avec une équipe projet. Du coup, on fait des points ensemble sur l'avancée du projet. Et donc, on a des structures qui vont être utilisatrices de la plateforme. Des fédérations, des mutuelles ou des coopératives qui sont intéressées soit pour bénéficier de mise à disposition, soit pour mettre à disposition du temps et des compétences salariées.
Ouais. Et puis, je signale, pour qu'il n'y ait pas de doute, quand on a parlé de la formation, c'est la formation des salariés, mais aussi la formation des bénévoles qui peuvent profiter de cet outil. Le site, c'est e2s-paysdevannes.fr, autrement dit, c'est le pôle ESS du Pays de Vannes. Et puis, le même pôle a aussi une page Facebook, vous allez trouver l'adresse à nos pages d'émission. Merci Anne-Hélène.
Merci à vous.
Je ne sais pas si vous connaissez Vizille, petite ville de 7500 habitants dans la vallée de la Romanche, en Isère. Pourtant, il y a une bonne raison de la connaître, parce que c'est le point de départ de la Révolution française, en juin 1788, après une réunion des Trois Ordres du Dauphiné au château de Vizille. Un appel à la nation fut lancé pour définir un nouvel ordre politique. Vizille sera aussi un haut lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis de nombreuses années, la ville organise des fêtes révolutionnaires, en costume, en musique. Et puis cette année, elle crée aussi un événement baptisé Appel au pluriel. Ils sont nombreux appels pour un monde meilleur. Et entre autres, une journée spéciale samedi, le 30 juin, où se tiendront les états généreux de la citoyenneté, soit une après-midi de débat, d'échange, de bons principes sur la production locale, l'environnement, les nouveaux types de transport, l'éco-construction, l'économie sociale et solidaire, la formation, l'éducation. Bref, je ne vais pas passer tous les thèmes en revue. Seront nombreux ces appels pour un monde meilleur s'étendront sur 3 journées de vendredi prochain, 29 juin jusqu'au dimanche 1er juillet, fête au pluriel, trait d'union révolutionnaire de Vizille.com, c'est l'adresse que vous allez retrouver à nos pages d'émission.